Vous y êtes pour une heure de sous-marin tout au fond de l'eau comme tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 19h à 20h, une heure d'actu qu'elle touche à la politique, à la vie étudiante ou associative, à l'économie, au sport ou à la culture. Et pour m'accompagner pendant cette heure, je salue Quentin. Salut Quentin.
Bonsoir.
Pierre-Antoine nous rejoindra en cours d'émission dans l'ordre donc géopolitique et politique. En fin d'émission, vous retrouverez bien sûr l'agenda de votre soirée et la bulle sonore. Tout le monde est à son poste, c'est parti.
Emmanuel Ferrer a 30 ans. Il est né à Paris. Il n'est pas connu de vous, quoique, et comme par anticipation, une place déjà et un boulevard portent son nom. Au mois de novembre dernier a eu lieu sur la rive droite sa première grande exposition personnelle. Autrement dit, voici un jeune peintre. Si nous l'avons choisi comme exemplaire, c'est qu'il nous semble bien représentatif des problèmes qui se posent à la jeune peinture aujourd'hui et les solutions qu'il y apporte, vers lesquels il tend du moins, semble s'attaquer au fond même du problème.
Un document de l'INA de 1966 qui entame notre discussion autour de la création artistique, la création plastique. Nous aussi, nous allons évoquer les problèmes qui se posent à la jeune peinture aujourd'hui, mais pas que. Nous n'allons pas nous cantonner à la peinture et nous allons aussi évoquer ce qui marche après tout. Nous recevons pour cela la galerie En Face, représentée ici par Amandine Poirier et Niels Benning. Bonsoir.
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 La galerie En Face qui fêtera ses 2 ans en novembre et qui a été créée donc par 2 anciens élèves des Beaux-Arts. Et à vos côtés, le collectif Goop, représenté par sa présidente Lucille Martinez. Bonsoir.
Bonsoir.
C'est une association qui permet aux étudiants de l'école des Beaux-Arts de se rencontrer, d'exposer dans des lieux publics, de sortir de leur œuvre de la rue Bressigny, finalement, et d'exposer par exemple au Bar du Quai, chez Pai Pai ou au Téroc.
Oui.
Première question de vocabulaire, juste pour cerner un peu le sujet. Quand est-ce qu'on devient artiste? C'est quoi un artiste? Est-ce qu'il y a un statut officiel après tout qu'à un moment donné on peut décrocher ou...
Eh bien, il y a un statut qui est celui d'artiste qu'on peut trouver à la maison des artistes. Donc, c'est une institution qui du coup permet de déclarer l'activité.
Et c'est quoi les critères pour devenir artiste à cette maison des artistes?
Alors, les critères pour devenir artiste à la maison des artistes sont eh bien, c'est un petit peu comme les mêmes que ceux d'auto-entrepreneurs. On peut être affilié ou assujetti.
C'est
donc,
ça.
Donc voilà, c'est pas tout à fait les mêmes fourchettes, les mêmes barèmes en fait de revenus. Voilà.
Et c'est important d'avoir ce statut, d'être reconnu, ou après tout, c'est pas si grave?
En fait, c'est à partir du moment où on souhaite vendre ses œuvres, on est obligé du coup de passer par des déclarations. Voilà, c'est plus d'un point de vue financier, en fait, c'est un statut qui permet de déclarer ses revenus.
Mais par exemple, si on prend l'exemple de la galerie En Face, les artistes que vous exposez ne sont pas forcément reconnus à la maison des artistes, ou
alors...
si?
Alors, soit à la Maison des Artistes, Niels oubliait aussi qu'on pouvait se déclarer, du coup, simplement, en fait, aux impôts, déclarer ses revenus aux impôts. Mais si, en effet, en fait, on n'a pas le choix, quand une œuvre est vendue, pour que l'artiste puisse récupérer l'argent qui lui est dû, il faut qu'il facture l'association, et dans ces cas-là, il y a besoin d'un numéro de SIRET, et donc, du coup, d'être déclaré.
Très administratif.
C'est ça.
Alors, en fait, vous êtes tous issus ici des Beaux-Arts. Est-ce que c'est important, cette école, cette sortie d'école, pour se créer un réseau? Lucille, vous y êtes toujours, vous?
Oui.
C'est important d'avoir ce réseau au sein d'Angers, ou alors on peut s'en passer?
Non, c'est important parce que c'est une école qui ne nous forme pas, en fait, au post-diplôme. Et donc c'est important, en fait, de s'organiser déjà, à partir du moment qu'on est dans l'école, de mettre en place des choses, en fait, pour préparer sa sortie d'école. Et c'est justement ce qu'on a essayé de faire avec l'asso, et c'est ce que vous avez aussi trouvé comme solution avec la galerie.
Mmh. Oui, c'est important de s'entourer. Ça permet aussi de garder, au sein de l'école, on est entouré de personnes qui ont les mêmes priorités, en fait, que nous. Et lorsqu'on les quitte, on peut se retrouver assez facilement seul si on s'entoure pas de personnes qui partagent nos envies, quoi.
Parce qu'en fait, voilà, ce que vous expliquez, c'est qu'au sein de l'école, en fait, après, on vous lâche un peu, quoi. Mmh. Et c'est à vous de faire votre trou.
Ouais, c'est ça.
Et paradoxalement, Goop, vous êtes, enfin, à l'association Goop, vous êtes encore à l'école, mais oui. Vous cherchez à en sortir. Vous cherchez à sortir vos œuvres de la rue Bressigny des murs.
Oui, c'est ça.
Pourquoi ? Parce que ça pourrait aussi servir cette étiquette Beaux-Arts pour ramener du monde, quoi.
Oui, mais l'étiquette Beaux-Arts, elle se termine après les études. Et du coup, l'idée, c'est de monter une structure où on est complètement, malgré le fait qu'on est toujours à l'école, Nicolas et moi qui avons fondé, maintenant même, elle va grossir, l'équipe de Goop va grossir. Mais... Et l'idée, c'était de préparer notre sortie et aussi parce qu'on trouvait qu'il y avait un certain manque... à Angers pour la visibilité de l'art contemporain, des jeunes artistes. Et donc voilà, c'était créer une nouvelle structure, une nouvelle plateforme pour sortir. Et puis après, savoir organiser des expositions en dehors de l'école, avoir un autre public, un autre regard que celui des professeurs, de nos copains étudiants. Et on pensait que c'était vraiment important. Mais cette année, là, on arrive presque à la fin de la saison, la première saison de Goop, et ça nous a beaucoup apporté. Et ça prépare... le post-diplôme, mais comme on peut.
Alors justement, ce manque de visibilité dont vous parlez, la galerie en face que vous avez créée, Amandine et Nils, c'était justement pour ça, parce qu'il n'y avait pas de visibilité quand vous êtes sortis de l'école.
C'était en fait, sorti de l'école, on a fait le constat qu'il n'y avait pas beaucoup de lieux qui permettaient à des artistes émergents d'exposer leur art.
Peut-être qu'on peut les énumérer, d'ailleurs, les endroits à Angers où un jeune artiste qui sort des Beaux-Arts peut aller exposer.
Alors,
il y a la galerie en face, évidemment.
Il y a la galerie en face, il y a l'association Goop.
Sauf que pour l'instant, on n'a pas de lieu fixe. Donc,
après, pour un artiste émergent sur Angers...
L'Artothèque des Beaux-Arts, ça c'est une solution. Ah,
Il y a l'association Les Îles Lointaines aussi qui sont placées après la caserne des pompiers, qui, je pense, expose des artistes qu'on peut dire émergents. Après, c'est...
Voilà. C'est vite fait,
c'est assez rapide.
Sinon, ça va être aussi dans des événements comme dans l'art à deux pas, ou des événements qui n'ont pas forcément de lieu propre, mais qui investissent des lieux différents d'une année sur l'autre.
Et depuis que la galerie en face est créée, est-ce que les artistes que vous exposez vous remercient et enfin, ils attendaient ça en fait?
Je pense oui, en effet, vu le nombre en fait aussi d'artistes qu'on a eu à la galerie. Et d'ailleurs, on en est toujours surpris en fait. Enfin, quand on était au Beaux-Arts, on s'en rendait pas forcément compte du nombre de personnes en fait qui font des choses de qualité sur Angers. Et du coup, ouais, je pense en effet, il y a besoin et il y a même besoin encore plus, quoi.
Oui, c'est que ça partait aussi d'une, même ça partait même de notre propre demande en fait. Enfin, en tant qu'artiste, on voulait qu'il y ait un lieu où on puisse du coup exposer plutôt facilement, quoi.
Lucille Martinez, je disais tout à l'heure, à Goop, vous investissez souvent les cafés, les bars pour exposer. Et beaucoup de bars exposent d'ailleurs de manière temporaire. On peut citer l'Arts Café, le Velvet, le T-Rock, oui. Le Twist, le Baroque. Un peu comme le café-concert, il y a des cafés-galeries maintenant. C'est un moyen de se voir aussi, les cafés.
Oui. Puis c'est surtout que ce qui est important dans le café, c'est que c'est un public différent que de celui d'une galerie, par exemple, ou d'un centre d'art contemporain. C'est... Nous, l'idée, si on a démarché auprès de bars comme... le T-Rock, l'île de Gorée ou le bar du Quai, c'était l'idée d'avoir un public différent de celui de l'école, toujours dans la démarche de sortir de cette école et de présenter nos travaux face à un nouveau public.
Et ça fonctionne justement, est-ce que ça prend ça? Parce que quand on va prendre un café, on fait attention à ce qui nous entoure. Est-ce que vous avez des retours de gens qui viennent juste pour boire un verre et puis qui finalement... s'accroche.
Ben on a peu de retours parce que en fait le jour principal c'est vraiment le soir du vernissage où là il y a vraiment un public qui est venu pour l'exposition et pas pour forcément boire un verre mais ensuite on lâche des cartes postales fly à chaque exposition et les cartes postales diminuent donc je me dis que la formation et la communication de l'asso passe mais on n'a pas beaucoup de retours parce qu'on reste pas sur le lieu pendant toute la durée de l'exposition mais souvent, oui, il y a eu des gens intéressés par des pièces aussi ou des choses comme ça qui nous ont contacté, qu'on a oui dire, mais je pense que oui, ça fonctionne. De toute façon, s'il y a quelque chose d'accroché dans un lieu, on peut pas passer vraiment à côté.
Est-ce que d'une manière générale, si on file la métaphore par rapport à la musique, vous trouvez que la création artistique, enfin la création plastique à Angers est dans l'ombre de la création musicale, parce qu'on entend beaucoup parler de la création musicale des groupes locaux qui sont mis en avant par la municipalité aussi, ça aide. Est-ce que vous trouvez, vous, que la création plastique est un peu mise à l'écart ?
Je pense que c'est vrai, c'est le cas. Angers a donné plutôt une priorité à la musique, et il y aurait besoin, je pense, en effet, de mettre en avant plutôt le plastique. Ouais.
Et comment vous expliquez ce choix ? Est-ce que c'est parce qu'on a du mal à trouver un public à la création plastique ?
Alors, je ne sais pas. Je pense que c'est aussi une question d'appréhender un petit peu, d'ouvrir des lieux pour l'art. C'est souvent vu comme... quand il y a une exposition, je pense qu'il y a beaucoup moins de personnes qui se sentent concernées.
Mais ça, c'est en général, c'est assez pas curieux. Seulement Angers.
Il n'y a pas d'autres villes qui s'en sortent mieux ?
Bon, bah si, bien sûr. Je pense que Nantes, par exemple, comme ville assez proche, on est un très bon exemple. Il y a beaucoup plus d'expos, beaucoup plus de galeries.
Parce qu'il y a un public ou parce qu'il y a une aide ?
Le public, il est toujours là. Je pense que c'est...
C'est aussi en créant des structures, des associations, qu'on crée le besoin aussi. Enfin, le besoin, si on peut appeler ça un besoin.
La curiosité.
La curiosité, en tout cas, ouais. Donc, c'est aussi pour ça que je pense qu'on a fait ça. C'est si on propose des choses, tout d'un coup, les gens vont peut-être aussi le recevoir.
On va continuer cette conversation après l'effort de June et Jim.
Connais-tu les mots qui font trembler les forts, les peurs qui les rendent impuissants, les pieds fragiles sur nos jardins foulés? Connais-tu le lieu où s'armer les épaules, les poings pour se cogner au leurre et le courage de comprendre l'effort inopinant d'obéir tout soledad no puedo llevar tu tristeza. Connais-tu les poids que tu dois soulever, les mois qu'il te faut travailler pour écaler la confiance des forts? Connais-tu les mots qui consolent les faibles, les fleurs pour apaiser nos larmes, et là ça va qui nous relèvera et nos points d'auber tout soledad nos points d'auber tout tristesse.
Dans le sous-marin sur Radio Campus Angers, on parle création plastique artistique en compagnie de la galerie En Face et du collectif Goop. Alors on a évoqué les lieux d'exposition, mais avant d'exposer, il faut quand même créer. Et avoir des lieux pour ça. Dans le document de Lina dont on a entendu un extrait tout à l'heure, l'artiste qui était interviewé peignait dans son appartement. Est-ce que les artistes créent encore dans leur appartement ou est-ce qu'il existe enfin des lieux pour créer à l'extérieur ?
C'est sûr qu'il y en a qui créent encore dans leur appartement. Il y en a même qui créent tout le temps et n'importe où. Je pense aussi à des artistes qui créeraient dans le lieu, donc des créations in situ. Certains ateliers, ça peut être intéressant, ça peut même être indispensable selon les créations en fait.
Oui, parce qu'il y a besoin de place pour créer. Et en plus, ça dépend de ce que l'artiste fait, mais ça peut vite fait prendre de la place. Et aussi, une fois créé, un lieu de stockage en fait, tout simplement pour conserver les toiles, etc.
On n'y pense pas forcément.
Non,
ça,
c'est vrai, on n'y pense pas forcément, mais quand les pièces sont pas en exposition, du coup, l'artiste a besoin de les stocker. Ouais.
Alors, qu'est-ce qu'il existe sur Angers ? Donc, il y a le pad. On en parlait au micro, là, hors micro, la pépinière d'artistes d'Avier. Il y a le pad, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Eh bien, il y a aussi, pas loin d'Angers, à Nid-Oiseau, Central 7. C'est une asso qui propose des ateliers donc, qui font environ 80 mètres carrés. Pour une soixantaine d'euros, je pense, aux dernières, je pense que c'était ça.
Et ça puis, suffit ?
Eh bien.
Je ne vous parle pas des 80 mètres carrés, est-ce que c'est les structures qui existent
alors,
suffisent ?
Les structures ne suffisent pas forcément, surtout qu'il y a des endroits qui sont, par exemple, comme des. Il y avait un squat où il y avait des ateliers pour artistes qui étaient comment ça s'appelait encore, c'était non juste à côté de la Maine, c'était le,
je pourrais pas vous aider,
le spam voilà. Le spam qui a été détruit en fait pour créer des logements. Il y a beaucoup de potentiel dans des bâtiments comme ça et pas toujours la possibilité de les louer pour une bouchée de pain parce que bon, les artistes ne sont pas forcément riches. Voilà,
donc
tous
on
ne vivent
des,
pas
des...
de leur art et donc
on détruit des squats d'artistes.
Alors oui, voilà, il y a parfois, enfin, je pense qu'il y aurait quelque chose, un travail peut-être à faire là-dessus, voire sur des lieux précaires, même sur des bâtiments qui sont non exploités, qui vont être détruits, mais en attendant, qui pourraient être peut-être loués pour une somme symbolique.
Voilà. Bah, non, j'ai entendu parler aussi des nouveaux quartiers près de les Hauts de Saint-Aubin. Apparemment, il y a des locaux qui sont pas encore loués et qui sont disponibles en fait pour des ateliers d'artistes le temps qu'ils soient en location. Et enfin, nous, on va aller se renseigner avec Goop pour ces lieux-là. Et...
C'était le bon plan de Goop. Les auditeurs. Notre nouveau maire Christophe Béchu avait dans son projet de transformer l'actuelle maison d'arrêt en centre d'art contemporain, finalement avec une aile pour accueillir les résidences d'artistes. Est-ce que c'est, selon vous, une bonne idée que la création, les ateliers soient finalement dépendants en quelque sorte, hein, de la mairie, enfin de la municipalité, que la municipalité mette en place des lieux, ou est-ce que vous préférez vous-même être indépendant ?
Je pense que ça peut être intéressant qu'elle les mette en place. Après, tout dépend aussi de la place qu'il laisse, du champ d'expression qu'il laisse, parce que pour pouvoir créer librement, bon, il faut être libre de contraintes aussi, d'une certaine manière. Alors après, quand la création est liée à la politique, c'est pas toujours évident.
On va parler finance un petit peu. Comment est-ce qu'on gagne sa vie en tant qu'artiste ou que galeriste d'ailleurs ? Est-ce qu'il y a des subventions publiques ou est-ce que c'est que par la vente de son art ?
Alors pour une association, en effet, il peut y avoir des subventions. Pour un artiste, il peut répondre à des appels à projets.
Avoir des bourses aussi.
Il y a des structures en effet qui proposent qu'on de l'argent à offrir aux artistes. Voilà, faut remplir une sorte de dossier ou quelque chose comme ça et puis gagner cette bourse. Voilà.
Après, je dirais que ça ne fait pas forcément vivre l'artiste, mais ça lui permet de créer pour après peut-être finalement. Pouvoir en vivre du projet qui a pu être créé grâce à ces subventions, au mécénat, aux dons.
La galerie en face, vous mettez en avant le fait de proposer des œuvres d'art à moindre coût, en quelque sorte, pour faire face à un marché de l'art qui a explosé, qui est devenu inabordable. C'est aussi un acte militant, ça, de créer cette galerie-là et de dire, voilà, vous aussi, vous allez pouvoir acheter de l'art.
Bien sûr.
Complètement, oui.
Bien sûr.
Bah, l'art n'est pas fait pour une élite, en fait, mais pour tout le monde.
Voilà.
Et donc, c'est aussi en essayant de proposer des prix qui soient corrects et que ça puisse convenir, du coup, à tous. Ouais.
Mais c'est quoi un prix correct quand on voit ce qui peut se vendre et les prix qui existent? En fait, à quoi, alors on va pas se lancer dans une discussion philosophique sur le coût, la valeur de l'art, mais
pour moi, un prix correct, ça va simplement être le prix que quelqu'un est capable de mettre, que quelqu'un veut mettre dans une œuvre d'art.
Mmh.
Alors, des personnes qui vont être riches vont vouloir mettre beaucoup de sous, et ceux qui le sont moins ou ne le sont pas. Vont vouloir en mettre moins. Je pense qu'il en faut pour tout le monde, finalement, en fait.
C'est comme ça que vous fonctionnez, en tout cas, vous ?
C'est comme ça qu'on fonctionne. Après, il ne faut pas oublier aussi l'artiste derrière, cette troisième personne, qui n'est pas non plus prêt à se détacher d'une pièce à n'importe quel prix. Donc voilà, on essaye de jongler avec tout ça.
Sans vendre au rabais non plus, sans dévaloriser, en fait, le travail.
À l'association Goop, est-ce que vous vendez vos œuvres?
On s'occupe pas de la vente. L'association, on propose juste de une visibilité et organiser même des financements pour organiser les expositions, mais on s'occupe pas de la vente. C'est les artistes qui s'en occupent, qui s'en chargent. Si quelqu'un est intéressé, du coup, on se détache un peu de cette partie-là.
Dans la galerie en face, j'y reviens. On a des murs boisés, on se croirait un petit peu dans un chalet. On est loin de l'image qu'on peut se faire d'une galerie d'art contemporain un peu froide, un peu blanche, tout ça. C'était aussi une manière de réconcilier le public avec ces galeries qui font parfois un peu peur.
Bien sûr.
On n'avait pas du tout envie d'être dans une espèce de cube blanc, comme on a pu beaucoup l'entendre aux Beaux-Arts. Pour ma part, j'aurais jamais cru en fait tenir une galerie, parce que même en tant qu'artiste, j'aurais pas pensé forcément exposer dans les galeries, parce que j'avais une image assez froide, en effet, de ce milieu-là. Lorsqu'on a choisi du coup de le faire, on voulait vraiment s'en détacher et faire quelque chose qui nous correspondait mieux et d'avoir un lieu qui est plus convivial, en fait, qu'une autre galerie.
Et ce qu'on souhaitait aussi, c'était ne pas laisser les œuvres d'art dans un univers neutre, même simplement pour pouvoir se projeter, en fait, quand on acquérit une œuvre d'art, l'endroit où on la met, chez nous, n'est forcément pas neutre. C'est un endroit qui vit. Il y a les éléments extérieurs qui peuvent dialoguer les uns avec les autres. Donc aussi au niveau des murs, mais aussi au niveau de l'installation, il y a un travail qui se crée.
Pour finir, un petit tour de table. Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour faciliter la création plastique à Angers, selon vous ? Lucille Martinez. J'en désigne un parce que c'est une
personne. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus de lieux qui soient accessibles à des expositions et des ateliers d'artistes, comme on le disait précédemment. Et déjà, ça serait pas mal.
Et je pense aussi qu'il faudrait que les créateurs soient mis au courant, en fait, parce qu'il y a beaucoup de beaucoup d'aide. Et assez bizarrement, les créateurs ne sont pas vraiment mis au courant. Il n'y a pas de campagne publicitaire sur des campagnes pour dire nous soutenons l'art, nous permettons à des artistes de créer. Alors que
un
peu de communication, ça ferait peut-être un peu de bien.
Amandine Poirier.
Ouais, moi je penserais aussi à fonctionner en réseau. On en parlait tout à l'heure, un artiste seul, aujourd'hui c'est difficile. Voilà, peut-être trouver des endroits, des lieux, ça peut passer par des ateliers, comme disait Lucille, mais voilà, des endroits où des projets en commun en fait pourraient être mis en place et du coup rendraient plus fort les choses.
Et aussi peut-être aussi qu'il faudrait aussi que les créateurs aient moins peur de se lancer aussi quelque part. La démarche d'être artiste et d'essayer pas forcément d'en vivre, mais de faire fonctionner cette activité, elle n'est pas toujours aussi dure qu'on ne le pense.
En tout cas, l'actu très chaude, Lucille Martinez, c'est à 20h. Oui. C'est à 20h, c'est un vernissage de l'avant-dernière Goupe.
Oui.
Une expo de Joanna Simon, Clément Renoux et Valentin Guillet.
Tout à fait.
C'est rue Max Richard, entre la Gare Routière et la Place de la Visitation.
Oui.
Donc on va vous laisser filer. L'actu de la galerie en face.
Du coup, l'expo en cours se termine le week-end prochain, en présence normalement d'Anaïque, donc Anaïque Le Mignon qui expose en ce moment, qui sera présente samedi, et de Aurore Besson qui sera présente dimanche.
Voilà, donc,
et la deuxième artiste qui expose également.
Une photographe et une sculptrice.
Ça se passe rue Saint-Aignan.
C'est ça.
Merci à vous trois d'avoir été dans le sous-marin sur Radio Campus
Merci.
Angers.
Merci à vous.
On écoute Alexander Ebert dans le sous-marin avec Remember Our Heart.
Oh,
Et dans le sous-marin sur Radio Campus Angers, il est l'heure de retrouver Quentin, qui nous permet de jeter un œil hors du sous-marin et de regarder ce qui se trame à l'étranger. Aujourd'hui, petit état des lieux des forces armées françaises. François Hollande a récemment engagé la France au Mali, ainsi qu'en Centrafrique. N'est-ce pas, Quentin ?
Oui, et sur les deux dernières années, l'armée française s'est largement redéployée. Le nombre global de soldats tricolores à l'étranger augmente, en termes d'opérations temporaires comme de contingents permanents. Dans le même temps, les effectifs totaux de l'armée de terre sont en constante baisse. Nos dirigeants, sur ce point, comme sur d'autres, sont guidés avant tout par la nécessité de faire des économies plus que par d'éventuelles convictions. Et tant mieux si elles convergent. Dans ce contexte particulier, la proportion de soldats en dehors de nos frontières augmente d'autant plus rapidement. Pourtant, les volontés des gouvernements précédents, de Lionel Jospin à Nicolas Sarkozy, ainsi que les souhaits d'une majorité du paysage politique, se retrouver sur la diminution de cette présence française.
Alors pourquoi on change de cap ?
Tu les évoquais. Les opérations Serval et Sangaris, au Mali et en Centrafrique, en sont à la fois des symboles et une partie de la cause. Le changement de cap a été exigé par des urgences humanitaires et terroristes.
Et pourquoi c'est la France qui doit se mouiller ?
Historiquement, les relations diplomatiques de la France avec de nombreux pays africains sont fortes. La France aussi cherche à réaffirmer sa position diplomatique sur le plan international. Elle défend sa place de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est une place qui peut lui être contestée et revendiquée par des puissances émergentes. Donc la France s'impose, quitte à se faire taxer de puissances coloniales nostalgiques. Les enjeux d'influence géopolitique ou économique sont réels. La France ne fait pas qu'apporter une sécurité bienveillante.
C'est difficile de faire la part entre la nécessité de la situation et la position diplomatique de la France.
En parlant de cela, la France n'est pas aussi seule qu'on pourrait le croire. Le plus, c'est que les opérations françaises se font en partie avec l'aide de forces de coopération africaines et aussi avec l'appui stratégique et logistique des États-Unis. Oui, la France est un bon élève de l'OTAN. Les actions françaises s'inscrivent dans la lutte antiterroriste, grand fer de lance de la politique sécuritaire américaine. L'antiterrorisme était d'ailleurs le sujet de travail des ministres de la Défense français et états-uniens, Jean-Yves Le Drian et Chuck Hagel, qui se sont rencontrés en février dernier. Et dans ce domaine, il y a beaucoup de travail. Le terrorisme frappe encore et toujours. Somalie, Pakistan, Russie, Liban, Syrie, Mali, Mauritanie, Libye, Irak, Yémen, entre autres, sont touchés. Au cœur du continent africain, les terroristes voyagent par à-coups depuis la fin de la guerre civile algérienne. Rejetés d'un côté, ils résistent puis migrent. Ils grossissent leur rang au passage et trouvent un nouveau lieu délaissé par le gouvernement local, un lieu propice pour macérer leur conception du djihad.
Concrètement, Hollande va encore lancer de nouvelles opérations extérieures ?
La France installe des bases permanentes réparties d'ouest en est en Afrique. Elles s'additionnent aux dispositifs américains déjà en place. L'une de ces bases permanentes va voir le jour au Mali, par exemple. Ces contingents sont plus importants pour leur position géostratégique que pour une certaine force de frappe. Le but est de pouvoir intervenir rapidement avec des forces spéciales surentraînées. Ces bases doivent s'articuler également avec une intelligence sur la question sécuritaire en Afrique. Cela a été évoqué, mais semble-t-il, non amorcer cette méthode éviterait de toujours mobiliser des troupes dans l'urgence et de les envoyer se battre contre un ennemi imprécis et sans réel plan d'action, contrairement à ce qui a été fait en Libye, au Mali et en Centrafrique.
Merci, Quentin. Ce matin, les associations de la coordination Migrants 49 avaient donné rendez-vous près de la halte de nuit de la rue Rouchy. Les préfabriqués dits Algeco y accueillent chaque soir 61 personnes isolées ou familles sans logement. Elles y passent la nuit de 21h à 7h du matin, heure à laquelle elles doivent quitter les lieux sans petit déjeuner. C'est entre autres pour cela que les associations avaient donné rendez-vous pour offrir un café, un jus d'orange ou de la brioche et pour sensibiliser sur l'insuffisance de places d'hébergement et sur les conditions d'accueil qu'ils qualifient indignes. Du café, de la brioche, un peu de chaleur. Il est 7h du matin, rue Rouchy, derrière le multiplex. Une centaine de personnes sont réunies près des Algeco du 115, ces préfabriqués précaires où sont logées 61 personnes chaque nuit, réfugiés ou demandeurs d'asile. Bruno Manini, président de la CIMA d'Anjou.
On est en train de boire un café pour tous ceux qui veulent, à la fois entre militants associatifs, droits de l'homiste, caritatifs mélangés, et puis surtout public en défaut d'hébergement. sans hébergement, non hébergés, donc qui sont ici accueillis pour la nuit à l'abri de nuit de la rue Rouchy. Donc c'est 5 Algeco pour à la fois des familles, des isolés, il y a des enfants dans le lot, et nous considérons que c'est des conditions pas dignes d'accueil. Donc nous venons à la fois leur dire notre soutien et essayer d'attirer l'attention sur ce lieu un peu planqué, à l'écart, où des gens sont accueillis à la sauvette dans des conditions que nous considérons pas dignes et pas conformes au droit. C'est-à-dire qu'il y a notamment chez eux des mineurs ici, des mineurs qui n'auraient pas à être là. Il y a des demandeurs d'asile qui devraient être en CADA d'après la Convention de Genève. Il y a des publics qui n'ont rien à faire là.
Michel Cartron, président de la Ligue des droits de l'homme pour le Maine-et-Loire.
C'est quand même inadmissible. On nous l'a en 2014. On couche des gens dans des conditions quand même ultra précaires. Et on les fout à la porte à 7h du matin, été comme hiver, avec des gamins, les vêtements et tout ça. C'est impensable qu'en France, en 2014, on ait des comportements de cette nature-là.
Romuald est éducateur spécialisé. Il a travaillé 4 mois ici avant d'arrêter. Ça n'allait pas dans le bon sens par rapport à mes convictions, explique-t-il.
Le quotidien dans les Algeco, en tout cas dans les personnes qui sont accueillies ici, c'est un accueil qui se fait le soir à partir de 21h, qui se termine le lendemain matin à 7h30. Donc voilà, c'est ce qui s'appelle une halte de nuit. Il y a des petits Algeco, donc des sortes de petits préfabriqués avec des lits de camp qui sont proposés, et puis des moyens sanitaires qui sont très très limités. C'est-à-dire pas d'eau chaude pour les quelques douches, les 3 douches qui existent sur place. Et puis quelques toilettes qui sont malgré tout entretenues tous les jours. Alors du coup, il y a 61 places dans les couchages de fonctionnement. C'est que du coup, c'est des lits de camp. Moi, à l'époque où je travaillais, il n'y en avait aucun qui était nettoyé régulièrement.
Soudain, une petite silhouette fend les groupes d'adultes et se dirige vers nous. Elle demande à parler au micro. Elle s'appelle Milana, elle a 11 ans. Elle est arrivée de Tchétchénie avec sa famille il y a un mois.
On peut dire que c'est un mois que nous n'avons pas mangé du nez chaud. C'est un mois qu'on habite à 115, comme ça. Comme vous voyez, nous sommes sales. Et nous sommes 4, 2 frères et moi et maman. Mon petit frère, il est déjà parti à l'école, mais mon grand frère et à moi, pas encore, après le 15 mai. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire encore? On habite à la gare. Et à la gare, bien sûr que c'est froid. Et il y a une salle où il y a chaud. Et parfois, ils ne laissent pas nous rester là. Et puis, on va dans les tramways. Et là aussi, les chauffeurs... Il crie sur nous et puis on sort de là et nous n'avons pas de place pour aller. Et c'est ça que je voulais vous dire.
Vous avez fait la demande d'asile ?
Oui.
Oui. Donc vous n'avez pas de réponse encore ? Non ? D'accord. Vous parlez bien le français là ?
Oui.
Vous l'avez appris ?
De notre pays. Maman, elle toujours aimait bien le français et puis elle voulait qu'on apprenne à parler en français.
D'accord.
Nous tentons d'entrer dans les Algeco qui servent d'abri de 21h à 7h du matin. Pas moyen, interdit aux journalistes. Mais les associations ont aussi convié quelques politiques. Corinne Bouchou, Marc Gouard et Serge Bardi ont eux accès aux Algeco après quelques coups de téléphone.
Ah, il y a une grosse différence de qualité d'hébergement que la Beauvais. C'est pas du tout les mêmes Algeco, c'est des Algeco
tout neufs,
mais c'est des Algeco adaptés. Oui. C'est des Algeco de logement, tandis que là-bas, c'est des Algeco de chantier. Alors là, où il y a vraiment deux gros problèmes. Il y a un premier problème évident, c'est le manque de sanitaires pour les migrants.
Oui, t'as remarqué ça. Pour des sanitaires supplémentaires.
Autant le sanitaire pour les SDF me paraît en nombre suffisant. D'abord, il y a un sanitaire pour 20, à l'autre côté, il y a un sanitaire pour 40. Oui. On a un regard bien critique, c'est sûr. C'est le manque de possibilité de pouvoir prendre son petit déjeuner, c'est évident.
Les trois parlementaires devraient envoyer un courrier à la préfecture suite à cette petite visite matinale pour demander un sanitaire supplémentaire et un espace pour petit déjeuner. Le minimum pour rassembler ses forces avant de rejoindre la rue pour la journée. Voilà, le quotidien à deux pas du multiplex Saint-Serge. Dans le sous-marin sur Radio Campus Angers, on va marquer un petit flashback avec le premier morceau diffusé cette saison. Souvenez-vous, c'était en novembre, Alba Loa, When I'm Roaming Free.
Mmh.
les mardis et dans le sous-marin, on retrouve la chronique politique de Pierre-Antoine. Salut Pierre-Antoine.
Salut.
Vendredi dernier, le conseiller du président de la République, Aquilino Morel, a été poussé vers la sortie à la suite de révélations du site Mediapart. Aquilino Morel est accusé d'avoir travaillé pour les laboratoires pharmaceutiques alors qu'il était chargé de les contrôler.
Même période, même journal qui révèle l'affaire et même couleur, le rose. Ce qui vient de rattraper Aquilino Morel et qui a causé la semaine dernière sa chute n'est pas sans rappeler une autre affaire, celle de Jérôme Cahuzac. Enfin, la comparaison s'arrête là, alors que tout le monde au Parti Socialiste soutenait, jusqu'à ses confessions, l'ancien ministre du Budget, le proche du président est tombé seul. L'ancien conseiller de François Hollande est accusé d'avoir travaillé en 2017 pour de grands groupes pharmaceutiques comme le laboratoire Lundbeck, alors qu'il était membre de l'IGAS. Rien de choquant jusqu'à ce que l'on sache que l'IGAS signifie en fait Inspection Générale des Affaires Sociales, autrement dit qu'Aquilino Morel jouait en réalité sur les deux tableaux. En même temps, c'est facile, travailler pour celui que tu es censé encadrer, ça sécurise l'emploi. En tout cas, malgré ses justifications, Aquilino Morel a dû prendre la porte, on ne plaisante plus avec les conflits d'intérêts au gouvernement. Pas sûr que cela suffise pour faire oublier cette affaire, surtout quand les parlementaires de l'opposition s'amusent et attaquent, car plus que la faute de l'ancien conseiller, c'est son train de vie qui est en ligne de mire, jugé trop faste et luxueux, et Ricciotti, député UMP, tacle à sa manière l'ancien conseiller, reprenant des informations de Mediapart. Dans les salons de l'Élysée, le plus proche conseiller du président se faisait cirer les chaussures de luxe qu'il possédait, on croit rêver. Le site révélait en effet qu'Aquilino Morel disposait d'un cireur de chaussures qu'il faisait venir tous les deux mois à l'Élysée. Une attaque que reprend, presque mot pour mot, Benoît Apparu, député UMP de la Marne. Il s'exprimait sur France Info.
La démission du conseiller de François Hollande était une évidence. Quand on passe son temps à donner des leçons de morale aux uns et aux autres, quand on a des diatribes du type « moi président, ce sera différent », quand on a une situation de crise comme celle que l'on a, l'Élysée n'a pas à avoir un contrat pour cirer les chaussures de M. X ou de M. Y. On n'est plus dans une période, me semble-t-il, où on a à l'Élysée des gens avec perruques poudrées qui font cirer leurs chaussures par je ne sais qui. Je pense qu'on est suffisamment grands les uns et les autres pour cirer nos chaussures.
Et quand on a des amis comme les siens, on n'a pas besoin d'ennemis.
C'est vrai, le Parti Socialiste n'a rien fait pour épargner le pauvre Morel, le nouveau secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, arrivé après le départ d'Alain Désir pour le gouvernement, ne mâche pas ses mots envers l'ancien conseiller. Si ce qu'il a dit est vrai, je ne vois pas comment il peut rester, il ajoute tout de même, même si ce n'est pas vrai, il faut qu'il s'explique, qu'on puisse le juger sur pièce. Autre parlementaire socialiste a taclé Aquilino Morel, le député Philippe Corderi, secrétaire national du PS à l'Europe, pour qui Morel doit démissionner au nom de la République exemplaire promise par François Hollande. Autre ancien allié au gouvernement, les Verts n'ont pas été très compatissants envers l'ex-homme fort de l'Élysée. Emmanuel Kos, présidente d'Europe Écologie Les Verts, s'en est pris à Aquilino Morel en rappelant l'autre affaire marquante de l'année dernière. « Quand je vois cette affaire, je me demande si on a appris de l'affaire Cahuzac », déclare-t-elle, tandis que les ministres, eux, préfèrent ne pas commenter l'actualité en cours, comme à leur habitude. Ce sera un « je n'ai aucune observation à faire sur ce sujet-là » pour Ségolène Royal, et un « il appartient à l'IGAS de donner les informations relatives à ce qui a été l'activité d'Aquilino Morel dans cette administration » pour Marisol Touraine. Peut-être le seul à, au moins de façade, tenter de protéger Morel, François Hollande, le président de la République en déplacement en Auvergne, a eu même un petit mot à l'égard de son ancien conseiller.
Aquilino Morel a pris la seule décision qui s'imposait, la seule décision qui convenait, la seule décision qui lui permettra de répondre aux questions qui lui sont posées par rapport à des activités qu'il a eues comme inspecteur des affaires sociales il y a plusieurs années. Mais je considérais qu'il ne pouvait pas y avoir de confusion. Parce que il y a un principe que j'ai toujours posé d'impartialité et d'indépendance. Et il convient donc que chacun puisse avoir des rapports qui soient conformes à ces principes.
On comprend bien tout de même que c'est à sa demande qu'Aquilino Morel a présenté sa démission vendredi matin. Le comble dans cette histoire, c'est que ce même Aquilino Morel était jusqu'alors un partisan de la transparence. En 2011, lors du rapport sur le médiateur, il avait déclaré « Des experts qui sont juges et partis, ce n'est plus possible, il faut en finir avec ça. Dommage Aquilino qu'en politique, faute à moitié avouée, ne soit pas pardonné. »
Oui, c'était une petite boulette quand même. Merci Pierre-Antoine. Avant de vous quitter, voilà l'agenda de votre soirée angevine. Côté cinéma, les 400 coups proposent une projection du Havre d'Harry Korismaki. C'est à 20h15 et le film sera suivi d'une rencontre avec Jean-Claude Fitoussi. Suite du festival de la création universitaire avec Happy End, une soirée consacrée à la restitution du concours de nouvelles qui est organisé par LUCO et l'UA. Une soirée lecture ponctuée d'intermèdes danse et rendez-vous à 20h30 à l'espace culturel de l'université. Zephyr 21 et The Jackson 4 sont au Café La matin à 20h30 et puis vous avez l'habitude Bœuf Blues au T-Rock à 21h. Demain, apéro-concert avec Loupsine Acoustique au Joker's Pub à 19h. Festival de la création universitaire toujours avec un bifort au Musée des Beaux-Arts à 19h, suivi d'un concert consacré aux gagnants de différents tremplins étudiants à l'espace culturel à 21h. Concert de Schizoïde Expérience au Bar du Quai à 20h30. AM444 sera au Shabada à 20h45 pour un duo sino-néerlandais de la plus grande classe, a priori. Concert Dissidence Radio à 21h30 au T-Rock Coco. Et attention, Radio Campus Angers vous fait gagner 2x2 places pour le concert de Wolfgang au Quai jeudi. Pour ce faire, dites-nous donc qui compose ce groupe. Envoyez votre réponse à communication@radiocampusangers.com en n'oubliant pas vos coordonnées, ce serait bête. Pour l'heure, on va débrancher les hydrophones. Vous pouvez réécouter cette émission sur le www.radiocampusangers.com ou demain en rediffusion sur le 103FM à 13h. Et à 21h, c'est-à-dire dans un peu plus d'une heure, vous retrouvez The Johnny Clash Show. Salut Johnny Clash.
Hey.
Et qu'est-ce qu'on va faire ce soir à 21h?
Je vais continuer ma promenade à New York, je vais manger de la glace, de la pizza, et on va écouter de la musique américaine.
Bon, ça fait 2 semaines quand même que tu te promènes à New York.
J'aime bien.
C'est donc à 21h sur Radio Campus Angers. On vous laisse avec la bulle sonore. Ahmed Fofana était dans Turbulence jeudi dernier avec ses musiciens. Alors oui, il nous a offert un super live. Mais avant, il a aussi répondu aux questions de Yann. Ici, il évoque ses collaborations avec Björk notamment. Excusez-nous du peu. Passez une très bonne soirée sur Radio Campus Angers. Nous, on se retrouve jeudi à 19h. Allez, bisous.
Vous avez travaillé avec différents artistes, connus ou moins connus. Vous avez notamment, dans votre parcours, rencontré des artistes tels que Björk, Damon Albarn ou encore Amadou et Mariam. Qu'avez-vous pu leur apporter, eux, dans leur projet, et que vous ont-ils apporté, vous, dans le vôtre, et dans votre musique, dans votre perception de la musique?
D'accord. Déjà, en parlant de Björk, c'est que quand j'ai eu la chance de réaliser, d'arranger l'album de Toumani Diabaté, Boulevard de l'Indépendance, produit par War Circuit, basé en Angleterre, et il y a Björk qui a écouté cet album, automatiquement, elle a contacté Nick, qui est le directeur de la boîte War Circuit, et elle voulait faire un projet, comme elle a l'habitude de le faire, c'est de faire des albums de collaboration avec des Hindous, des Africains et tout ça. Elle voulait forcément l'intervention d'un groupe malien, et elle appréciait l'arrangement que j'avais apporté, donc elle a souhaité que je fasse face à leur visite à Bamako.
D'accord.
Et les musiciens qui ont été choisis, il y avait Toumani Diabaté aussi, il y avait moi, il y avait Aboubakar Kouyaté qui est percussionniste, Diabaté pardon. Donc elle est passée à Bamako avec deux personnes, donc deux musiciens anglais qui l'ont accompagné. C'est là que j'ai participé sur ce projet en tant que musicien et j'ai arrangé un peu, j'ai apporté la partie coloration africaine. Mais ce que j'ai pu apprendre côté expérience, c'est que c'est une dame aussi qui est humaine, malgré le succès qu'elle a. Et les musiciens qui sont arrivés, il y avait un musicien qui avait un instrument que j'avais jamais connu. Moi qui suis amoureux de tous les instruments, donc j'ai découvert cet instrument, j'ai changé avec son musicien là. Et Damon, c'est un peu le même esprit. C'est parti d'abord sur les projets qu'il a enregistrés au Mali. Et ensuite, il m'a demandé de participer sur le projet Africa Express. J'ai joué un peu d'intermédiaire et musicien sur ce projet.
D'accord. Voilà. Ça semble avoir coulé de source d'avoir travaillé avec ces gens.
We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.